Alors. Luc chapitre 10, et les versets 1 à 24. Nous avons devant nous un incident très important à plusieurs égards, et qui sans doute peut nous éclairer nous-mêmes vis-à-vis de notre manière de vivre dans le royaume de Dieu en attendant sa venue. Il y a beaucoup de richesse dans ce passage biblique. Beaucoup de choses que le Seigneur dit qui nous bouleversent, qui sont complètement le contraire de ce qu'on aurait pensé. C'est presque choquant ce que le Seigneur dit. Son royaume est choquant et bouleversant parce que nous sommes de nature dans un royaume complètement contraire, égoïste, centré sur l'homme, pécheur, et nous ne voyons pas qui est Dieu. Donc c'est bien pour nous, dans la présence de Dieu, de prendre l'enseignement que nous avons devant nous. Le message va se concentrer sur le verset, je cherche, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, les démons, vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus envoie 70 de ses disciples. C'est au début de ce ministère où maintenant Israël doit entendre que le point tournant de l'histoire est arrivé. Vraiment le point tournant. Le royaume de Dieu est venu. Et donc, il les envoie pour guérir et aussi pour chasser les démons. Et ils vont dans les villages autour. Et après un temps, je ne sais pas combien de temps, nous ne savons pas, Luc ne nous dit pas, mais certainement après des semaines, ils reviennent pour rendre compte à Jésus de ce qu'ils ont fait. Et dans le verset 17, nous lisons, les 70 revint avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et si vous avez jamais vu un cas de possession démoniaque, c'est une réalité tellement bouleversante de la tyrannie de Satan sur les âmes, qui n'ont aucun moyen de se défaire de cela. Et si vous avez jamais vu un démon chassé au nom de Jésus, vous voyez une puissance qui n'est pas de ce monde. Et donc on peut les comprendre, leur étonnement, leur émerveillement, en voyant des hommes et des femmes liés par Satan physiquement, parfois par des maladies qui ne sont pas physiologiques, mais qui sont spirituelles, ou des personnes qui manifestent ces convulsions, qui parlent avec une voix qui n'est pas la leur, qui une autre personnalité, qui de manière très évidente a pris possession d'eux et qui agit par eux. Toutes ces choses, je les ai vues de mes yeux en Afrique. J'ai entendu une fille parler avec la voix d'un homme, dire son nom et nous dire certaines choses. Donc tout cela, ne pensez pas qu'on est en train de parler de fables. On n'est pas en train de parler de fables. On est en train de parler de ce qui est réel. Nous pouvons comprendre leur étonnement de cette puissance de Dieu qui a délivré ces personnes. Mais le Seigneur les a envoyés pour un but très précis. C'était quoi? Vous avez vu dans le récit? Qu'est-ce qu'il devait dire? Il devait dire une seule chose selon le passage, un message. C'était quoi? Ah, le royaume de Dieu s'est approché de vous. D'accord? Et même ceux qui refusaient, ils devaient savoir, ok, le jugement viendra sur vous, mais sachez, que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce royaume qui chasse les démons, qui délivre du mal, qui renverse le royaume de ce monde et qui le remplace avec le royaume où Dieu est roi. Donc c'était le message de quelque chose qui est venu. Le royaume de Dieu s'est approché, est venu. Je voudrais vous parler juste un moment du royaume de Dieu pour que vous compreniez avant qu'on se focalise sur le problème des disciples et leur correction par Jésus, parce qu'ils ont dû être corrigés. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas le simple fait que Dieu soit le roi de l'univers. D'accord? Dieu a toujours été le roi de l'univers, il l'est toujours. Il n'y a jamais un moment ou un endroit où Dieu n'est pas complètement souverain. Ok? Mais le royaume de Dieu vient là où il n'était pas. Ok? Dieu était souverain dans ces villages, mais le royaume de Dieu ne s'était pas approché de ces gens jusqu'à ce que les disciples viennent. Donc, quelle est la différence entre la réalité que Dieu règne sur l'univers et la réalité qu'on appelle dans la Bible le royaume de Dieu? Dieu est souverain partout, mais quand l'homme a péché, il a laissé l'homme agir en désobéissance, il a livré l'homme au royaume du diable. Ok? Le royaume de Dieu, ce n'est pas là où Dieu est Dieu. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu agit dans une puissance et une grâce souveraine pour délivrer les hommes du royaume du mal et faire en sorte que les hommes l'aiment et lui obéissent volontairement et avec joie. D'accord? Le royaume de Dieu est un royaume dynamique et si vous êtes dans le royaume, ça veut dire que vous aimez Dieu parce que sa puissance est agissante en vous et vous êtes maintenant de tout cœur, volontairement, son sujet. D'accord? Je peux vous illustrer ça si vous regardez une page plus loin dans Luc 11 et le verset 20. Jésus vient de chasser des démons et donc il dit... On lui a dit que c'est par la puissance du diable qu'il a chassé ses démons, et il dit bien sûr que ce n'est pas vrai. Et dans le verset 1, il dit, « Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Est-ce que vous comprenez? Pour que le royaume de Dieu soit là, il y a une condition. Si je chasse les démons par le droit de Dieu, ça veut dire que le royaume est venu vers vous. En d'autres termes, le royaume, c'est là où Dieu, la puissance de Dieu est maintenant manifestée et conquérante. Chez le non-chrétien, le royaume de Dieu n'est pas venu dans sa vie, parce qu'il n'y a pas eu de conquête. C'est là où il y a conquête, effective. Là où, si je chasse les démons, là le royaume est venu. Vous comprenez? Ok. Donc c'est une sphère de réalité où Dieu agit, il délivre et il installe sa présence effective et réelle et conquérante. Maintenant, il faut que vous sachiez que la Bible enseigne que le royaume de Dieu devait venir, les prophètes de l'Ancien Testament pendant les siècles disaient, le jour viendra où le royaume va venir. C'est-à-dire, Dieu va installer cet état de choses où ce serait plus ce monde de mal, cet âge désobéissant, ce monde où Dieu n'est pas conquérant. Mais le jour viendra où Dieu va installer effectivement son règne dans le monde. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de non-chrétiens, il n'y aura plus d'injustice, mais il y aura Dieu qui effectivement règne et bénit le royaume de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que les prophètes regarder ces choses de loin dans les prophéties. Et donc, il voyait l'histoire en termes de deux âges. Comprenez bien, deux âges. Cet âge mauvais, où le royaume de Dieu n'est pas venu, même s'il y a quelques croyants. Le royaume n'est pas la réalité, ok? Il n'est pas venu. Et un âge à venir où le royaume est venu. Il voyait les choses nettement en deux périodes, deux mondes. Un monde mauvais, un monde à venir. D'accord? Et donc, ce monde à venir, cet âge à venir, allait venir avec le Messie. C'est le Messie qui allait mettre fin au monde présent, le jugement dernier, etc. Et puis, inaugurer le royaume. D'accord? Le nouvel âge. Le vrai nouvel âge. Avec la venue de Jésus, nous apprenons quelque chose de surprenant. Un détail que les prophètes d'autrefois ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils regardaient de loin. Maintenant, quand vous regardez les Alpes de loin, vous voyez deux pics, vous voyez deux montagnes, et de loin, ces deux montagnes ont l'air de se toucher, n'est-ce pas? D'être au même endroit. Mais si vous faites quelques kilomètres, vous vous rendez compte que ces deux montagnes sont séparées de plusieurs kilomètres. De loin, vous ne pouvez, ça a l'air d'être simultané, mais quand vous vous approchez, vous voyez, il y a un décalage entre les deux. Avec Jésus, nous voyons que, bonjour Lydie. Avec la venue de Jésus, nous nous rendons compte que ce royaume de Dieu qui devait venir ne vient pas en une seule phase. C'est-à-dire, ce n'est pas avant le royaume de mal, et puis le Messie, le jugement dernier, et l'âge à venir. Les deux âges ne sont pas séparés comme ça. Avec la venue de Jésus, nous avons quelque chose d'étonnant dans ce passage. Jésus arrive, on est toujours dans l'âge présent, le jugement dernier n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Le mal est toujours, les gens pêchent, il y a des gens possédés, mais Jésus dit, le royaume est venu, le monde à venir a pénétré dans le monde, dans le premier monde. Donc il y a un chevauchement entre l'âge à venir et l'âge présent. Jésus vient du monde à venir et de l'âge à venir dans le monde présent et il apporte avec lui un échantillon d'un âge à venir. Maintenant, regardez avec moi Hébreux chapitre 6 et verset 5 pour vous rendre compte que c'est de cette manière que les auteurs bibliques comprennent la chose. Verset 5 du chapitre 6, et donc il parle de certains qui ont quitté la foi chrétienne après avoir professé la conversion. Et nous lisons donc dans ce verset 5 ceci, donc ces gens qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Très étonnant. Parce que ces gens sont dans le siècle présent, mais ils ont déjà goûté les puissances d'un siècle à venir. Comment est-ce que tu peux goûter quelque chose qui n'appartient pas à l'époque où tu es? Cette époque n'est même pas venue. Mais c'est ça la surprise de Jésus. La surprise du royaume de Dieu, c'est que dans la personne du Christ, qui vient du monde à venir, il apporte déjà cette réalité dans l'âge présent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont possédés, qui sont délivrés, parce que la puissance de l'âge à venir, le royaume où Dieu règne complètement, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mal. C'est pour ça qu'il y a des résurrections, parce que dans l'âge à venir, il n'y a pas de mort. Mais Jésus apporte déjà cette puissance de l'âge à venir dans le maintenant, et les gens sont ressuscités. Mais comme c'est simplement un échantillon, ces gens qui sont ressuscités, ils vont mourir encore. OK? Parce que ce n'est qu'un échantillon pour montrer, pour révéler la nature d'un royaume à venir. Ça va? Vous comprenez? OK. J'ai pris vraiment de la peine pour vous comprendre que lorsqu'on parle du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un truc vertical qui peut être là à n'importe quel moment de l'histoire. Pas du tout. C'est un truc historique qui ne peut venir qu'à un moment donné, avec la venue du Messie, donc qui fait venir le royaume. Alors, donc, le royaume vient en deux temps. Comme ces deux montagnes qui avaient l'air de se toucher quand on était loin, et quand on est venu tout près, on voyait qu'il y avait un décalage entre les deux. Avec la première venue de Jésus, le royaume est déjà venu partiellement dans nos vies. Nous vivons, nous chrétiens, vous, à partir d'une puissance qui n'est pas de ce siècle et qui n'est pas de cette époque ou ce monde. Nous avons, par le Saint-Esprit, qui nous attache au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, un homme qui est dans le monde à venir, en ce moment même. Nous avons sa puissance, ses vertus, qui sont agissant en nous comme si nous étions déjà un peu dans le monde à venir. Ok, maintenant nous revenons au texte de Luc 10, si vous voulez l'avoir sous les yeux. Luc 10, et nous allons relire ces versets 17 à 20. Donc les disciples sont allés prêcher le royaume de Dieu, chasser des démons, annoncer que ce point tournant de l'histoire est venu. Les choses ont chaviré. L'âge à venir a déjà pénétré une fois pour toutes dans ce monde, même s'il y a une deuxième phase à venir. Et donc le texte nous dit que les 70 revint avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Point tournant de l'histoire. Je voyais Satan tomber du ciel. C'est-à-dire, de son point d'autorité où il tyrannisait l'âge présent. Jusqu'ici. Je le voyais pendant que vous étiez là en train de prêcher. Je le voyais tomber du ciel, figurativement. Perdre sa prise. Moi, je constatais dans le monde spirituel ce qui se passait. C'est incroyable. Les hommes que Satan avait tenus sous sa coupe depuis les âges, dans tous les endroits, dans tous les pays, maintenant, c'est les hommes qui tyrannisent le diable. Je voyais Satan lui-même tomber du ciel comme un éclair, c'est-à-dire brutalement. Tellement était grande la puissance que vous avez exercée en mon nom. Donc, nous continuons cette lecture. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Référence à un passage de l'Ancien Testament qui est imagé et qui se réfère à la puissance du diable. D'accord ? Ce qui est clair dans la phrase suivante, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, et voilà la correction vient, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Maintenant, nous arrivons au cœur de notre moment devant le Seigneur pour comprendre pourquoi le Seigneur nous a laissé ce passage, cet événement, cet incident, parce que en réalité, nous sommes dedans. Nous sommes dans le même dynamique, dans les mêmes tentations, dans les mêmes affaires que ses disciples. Regardez-les. Ils reviennent d'un service chrétien à succès phénoménal. Voilà. Si jamais on a été spirituellement réussi, voilà le jour. Ils reviennent, ils ont fait ce que le Seigneur a dit, les démons ont été chassés, et eux-mêmes, ils sont dans un état de joie. Et pourtant, ils ont tout tort. Le Seigneur, au milieu de leur succès spirituel, entre guillemets, doit les corriger. Vous ne pouvez pas garder cette attitude. Vous avez tort. Vous réfléchissez comme des hommes du siècle présent. Dans une manière anti-Dieu. Vous êtes en train de voir quelque chose que Dieu a fait pour vous à travers des lunettes anti-Dieu. Ne faites pas cela. Et nous avons envie de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais. Et parce que je vous dis que nous allons voir, nous sommes tous devant les mêmes tentations constamment dans notre service pour Dieu. Ok? Donc, nous voyons qu'ils ont dû avoir une correction. Et avant d'aller au cœur de cette correction pour essayer de dévoiler ce que c'est, problème auquel nous devons faire attention, je veux juste vous faire remarquer combien Jésus est sympa avec eux. Il sait qu'ils sont pas en train de regarder cette affaire bien. Mais au lieu de les corriger tout de suite, il dit dans le verset 18, il retient ce qui est bien de leur service. Je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est bien mes disciples. C'est vrai, je vous ai donné pouvoir sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et notre Seigneur est tellement bien avec nous. Il est tellement parfait. Il n'est jamais comme nous qui ont tellement envie d'abord de corriger quand nous voyons le torcher l'autre. La première chose qu'on veut, c'est ça qui ne va pas. N'est-ce pas? Le Seigneur n'est pas comme ça. Il dit d'abord, il n'a pas cette envie qui le range. Il dit, oui, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et ensuite, maintenant, il va les corriger. Il leur dit dans le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alors, ça bouleverserait l'attitude complète de certaines chrétiens évangéliques. S'ils prenaient ce verset vraiment à cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'évangéliques qui sont dans une optique païenne. Ils sont évangéliques de nom, mais ils ont en réalité une attitude qui correspond exactement aux religions païennes et non chrétiennes. Et qui sont des religions de puissance. C'est la puissance qui est le centre. Mais Jésus dit ici, mon royaume n'est pas comme ça. Ne vous réjouissez pas. Ça, c'est rien. Vous vantez ça. Vous aimez ça, vous cherchez ça. Et vous montrez que vous avez besoin de vous repentir et d'être sanctifié. Je vais revenir dans un moment pour vous montrer. Mais préparez-vous devant le Christ. Préparez-vous à avoir votre vie bouleversée. Bouleversée. Je voulais vous faire remarquer que ce que le Seigneur retient comme problème n'est pas banal. Il dit que c'est à l'endroit le plus fondamental dans leur vie et dans leur relation avec lui. Parce que il les corrige où? Vis-à-vis de leur comportement extérieur? Non. Vis-à-vis de la source de leur joie. C'est une affaire du cœur. Et je vous demande, qu'est-ce qui vous réjouit? Si vous me donnez la réponse, je vous dirai à quel point vous marchez proche de Dieu. Parce que ce qui est le plus parlant en vous, c'est ce qui vous réjouit. Souvent dans le Nouveau Testament, Paul se réfère à ce point pour montrer vraiment ce que c'est que d'être chrétien. Il a dit, loin de moi de me glorifier en quoi que ce soit, sauf en Christ crucifié. Tu vois, ce qui me réjouit, la chose dans laquelle je me glorifie, je me vante, je trouve ma joie, ça montre mon caractère. Alors, je vous demande, Est-ce que vous voudriez un pasteur dont vous savez que sa vraie joie, c'est d'avoir un ministère, de succès, c'est d'avoir le succès dans le ministère chrétien? Vous voulez ça? Ce serait un grave problème pour vous, n'est-ce pas? C'est le problème, là. C'est l'attitude. C'est l'orientation des disciples, ici. Et vous pouvez voir pourquoi le royaume de Dieu doit mettre à bas tout cela. Maintenant, sachant que c'est tellement important, tellement au fond de nous, alors on va essayer de voir maintenant et terminer en voyant quelle était leur erreur de fond. Mais avant de le faire, je veux vous parler parce que vous n'êtes pas forcément un prédicateur par métier comme ces gens. Mais attention, vous êtes un humain en relation avec Dieu. Certains d'entre vous sont convertis, d'autres non. Ça n'a pas d'importance parce que vous êtes appelés à vivre en relation avec Dieu. Et le problème est le même pour les chrétiens et les non-chrétiens. Où est votre identité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes quelqu'un? N'est-ce pas? Nous allons voir que ça tourne autour de cette affaire ici. Et nous pouvons servir Dieu, nous tous, que nous soyons laïcs, entre guillemets, ou pasteurs, ou évangélistes, nous servons tous Dieu. Et nous le faisons dans une certaine attitude, une certaine orientation, ce service a une certaine place dans notre optique, que parfois quelque chose devrait avoir cette place. Et nous faisons fausse route devant le Seigneur. Donc, ok, bon, on y va. Vous êtes prêts? Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais m'approcher un peu lentement. Je vais regarder leurs problèmes de plusieurs angles comme ça, pour essayer de voir des facettes de cette attitude qu'ils avaient. Et à la fin, on va arriver au cœur, j'espère. Ok? Bon, première idée. Les disciples, les 70, avaient l'habitude que la chose principale, c'était la puissance du royaume pour conquérir le mal. La chose principale, c'est cette conquête du royaume plutôt que l'essence du royaume. Je vais revenir là-dessus à la fin, mais vous savez que la puissance pour chasser des démons, c'est seulement le moyen pour installer le royaume lui-même. Ce n'est pas le royaume. C'est le moyen pour l'installer. Mais Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, être droit, une bonne relation, c'est la justice, la paix, et la joie dans le Saint-Esprit. C'est une vie avec Dieu où il nous réjouit et on est en règle avec lui. C'est ça le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et chasser des démons, c'est juste le moyen d'y arriver. Donc ils ont confondu le moyen avec le but. Je vais parler de ça à la fin. Mais on se rend déjà compte qu'ils ne comprennent pas que l'essence du royaume n'est pas cette puissance. Deuxième idée. Ils ont fait de quelque chose de passager la chose principale, plutôt de se focaliser sur ce qui est final et définitif et permanent du royaume de Dieu. Regardez bien avec moi le verset 17 et verset 18. Les 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont, au présent, verbe au présent, nous sont soumis en ton nom. Eux, ils voient cette affaire maintenant comme un état de choses. Ah, maintenant, les démons nous sont soumis. Jésus ne le voit pas comme un état, mais un événement passager. Regardez le verset 18. Je voyais un parfait, je voyais un événement, Satan, tomber, le mot tomber est dans le temps aoriste, dans le grec, c'est-à-dire un événement ponctuel. J'ai vu un point tournant, j'ai vu un servirement. Et nous savons que on va pas toujours chasser des démons. Le jour viendra où ça n'existera plus. C'est une chose passagère. On peut pas faire d'une chose passagère la chose principale. Parce qu'on ne l'aura plus un jour. Ensuite, moi je suis pas très vraiment du cœur de l'affaire, mais je tourne autour un peu. Est-ce que vous, on fait de certaines choses qui passent la chose principale ou de ce qui est éternel, dans lequel Dieu nous appelle à rester pour toujours avec lui. Ensuite, pour eux, le centre, c'est ce qu'eux, ils font, ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils produisent, l'effet qu'ils font. On a pu chasser ces démons, c'est ça qui fait de nous quelqu'un, c'est ça qui est important, ce qu'on a pu accomplir. Et Jésus, dans le verset 20, inverse cela. Regardez bien. Il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits, verbe passif, sont écrits dans les cieux. » Il dit, « Le vrai sujet de joie pour toi en tant que chrétien, n'est pas ce que tu fais pour Christ. » Écoutez bien. Le vrai sujet de joie pour toi en tant que chrétien n'est pas ce que tu fais pour Jésus-Christ. C'est ce que Dieu, dans sa grâce, a fait pour toi. Qui a écrit ton nom au ciel? Toi? C'est quelque chose que tu as produit. C'est quelque chose que tu as effectué. Tu n'as rien à faire avec ça. Tu n'as jamais été au ciel. Si ton nom a été écrit, c'est le Dieu de grâce qui, malgré toi et ton péché, a fait quelque chose par l'œuvre de Christ. Il dit, réjouis-toi de ce que Dieu a fait pour toi par Jésus-Christ et qui est permanent. Ton nom est écrit dans le ciel par Dieu. Ah oui, il y a une grande différence entre les deux manières de penser, n'est-ce pas? N'avez-vous pas la tendance de fonder votre identité dans ce que vous faites, plutôt dans ce que Dieu fait pour toi? Mon identité vient de l'amour que Dieu porte envers moi. Je suis son enfant à cause de son amour. Ensuite, juste pour finir peut-être cette partie de fixer notre identité chrétienne dans ce que nous faisons, notre service, plutôt que ce que Christ a fait pour nous, c'est juste une forme de justice de soi, disons-le, tout haut, n'est-ce pas? C'est juste une forme de justice de soi. Cette attitude qui fait périr quelqu'un qui l'a d'une manière complète et fondamentale. C'est la même attitude qui pousse un non-chrétien à vouloir gagner le salut par les œuvres, n'est-ce pas? Il fonde sa relation avec Dieu complètement sur ce que lui, il fait. Et il périt. Parce que c'est une manière de se rebeller contre le Dieu vivant. Dit la Bible, de se révolter, de dire que par ma justice, je peux t'obliger de m'accepter. Oh, loin de là, pécheur, loin de là. Parce que si tu parles ainsi, du moins voilà la manière dont Paul le dit. Paul dit que c'est une manière qui fait périr là, mais voilà pourquoi. Il dit en Galates chapitre 2, il dit ceci, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, donc par les œuvres, Christ est donc mort en vain. La personne qui essaie de mériter une relation acceptée par Dieu est en train de dire, Christ est mort en vain. vis-à-vis de moi parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin que lui, il fasse cela parce que je peux le faire moi-même. Donc, Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, la justice de soi rejette la grâce de Dieu. Pas besoin de ça. Donc, nous voyons que Jésus et sa pensée est remplie de la réalité que ce qui compte pour toi, ce qui compte pour l'homme, c'est pas ce que tu fais. De toute façon, Judas Iscariote a chassé des démons. Et il a péri. Et Jésus a dit en Matthieu 7 que beaucoup me viendront en ce jour, le jour du jugement. Beaucoup, beaucoup viendront à Christ et diront, est-ce que nous n'avons pas chassé des démons en ton nom et fait ceci et cela? Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été un vrai croyant. Chers amis, le fait de pouvoir faire ceci ou cela au nom du Christ, parce que ce nom est puissant, même dans la bouche de ceux qui ne le connaissent pas, c'est rien. Ce que nous faisons en général n'est rien. Ce que Dieu a fait pour nous est absolument bouleversant. C'est pour ça que Jésus lui-même va maintenant avoir de la joie. Regardez avec moi la joie qu'il a. Dans le verset 21, on lit ceci. En ce moment même, c'est-à-dire on est dans le même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est juste après qu'il a dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel par Dieu et sa grâce souveraine. Ok? Il dit, soyez joyeux à cause de cela. Et maintenant, lui-même, en le disant, il tressaillit de joie lui-même à cause de la même source. Et donc, on lit au verset 21, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu as caché le royaume. Oui. Dieu a jugé certainement en ne pas permettant qu'ils comprennent. C'est ça, le Dieu souverain. Il juge qu'il veut, et il sauve qu'il veut. Et donc, et de ce que tu les as révélé aux enfants, aux petits-enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu montres ainsi que c'est toi seul Dieu, et que personne n'oblige le Dieu vivant, surtout aucun pécheur. Rebelle. Regardez bien, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il est joyeux, il trouve ça formidable parce que ça montre que Dieu est Dieu. Pas toi, tu vas pas commander le salut ou croire que ce soit, tu vas pas obliger, tu vas pas mettre Dieu à ton dépens. Non, tu es complètement à sa merci. Et s'il sauve, c'est parce que il est rempli de grâce. Oui, c'est pas parce que tu l'as obligé d'être gracieux. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui décide. S'il y a des multitudes au ciel, comme la Bible le dit, au dernier jour des sauvés, c'est parce qu'il y avait multitude de grâce en lui, sans rien avoir avec vous. Donc Jésus tressaillit de joie et trouve ça formidable. Que Dieu cache ça aux grands de ce monde et qu'il le révèle à des petits enfants. La grâce souveraine. Vous allez peut-être dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là une injustice? Que Dieu puisse... Des gens qui sont peut-être pécheurs à un niveau égal. Et il va sauver un et laisser l'autre dans son péché le juger. Voilà, l'été arrive et il m'arrive une chose vraiment bizarre. Au début de l'été, quelqu'un vole ma voiture. En fuyant la police que j'ai appelée, la personne détruit complètement cette voiture. Le procès a lieu. Et parce que j'ai demandé qu'il y a un procès. Le policier m'a dit, est-ce que tu veux porter plainte? Je dis, oui, je peux porter plainte, j'ai pas l'argent pour acheter une nouvelle voiture, je dois récupérer ce qui m'appartient. Le monsieur est condamné et il doit me rembourser et me payer une nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'on appelle ça? La justice, right? Oui, c'est ça, la justice. C'est normal, hein? C'est ce qu'il me devait. Je lui ai pas fait un tort, hein, en lui demandant que il me rende une voiture du même prix que le mien. C'est ça la justice? Vous êtes d'accord? Ça va? Vous trouvez que je lui ai fait un tort? Ça va? Non. Attends, je ne sais pas aujourd'hui. Où est-ce que vous en sentez? C'est bon? Ok. Justice, c'est juste. J'ai fait ce qui est juste. Et il doit faire ce qui est juste vis-à-vis de moi. Ok? À la fin de l'été, c'est pas possible. Ma nouvelle voiture est volée par une autre personne. La même scène se répète. C'est fou. Le gars écrase la voiture, mais vraiment bien. Le policier me dit, est-ce que tu veux porter plainte? Pour des raisons qui me sont propres, je regarde ce garçon qui n'a pas été blessé dans l'accident. Il est là à côté du policier et je dis, non, je ne porte pas plainte. Je ne suis pas obligé de porter plainte. Je peux encaisser la perte moi-même et donc faire grâce à ce jeune homme. Non? J'ai fait un tort? Est-ce que j'ai fait un tort à quelqu'un? Ça va? Je ne fais tort à personne. C'est bon? J'ai le droit, c'est ma voiture, j'ai le droit d'encaisser la perte moi-même. Donc je dis non, ok. Ne fais plus ça, mon cher ami. J'espère que ce pardon va te servir à changer de vie. Quelques jours après, c'est le premier qui a volé la voiture au début de l'été. Il dit, je t'amène en procès. Tu m'amènes en procès? Tu m'as fait une injustice. Comment? Tu lui as gracié ce gars qui vient d'écraser ta voiture. Oh, tu m'as pas donné la même chose. Donc c'est pas juste, c'est pas équitable. Tu n'as pas le droit. C'est comme ça. Si tu l'as gracié, il faut que tu me gracies aussi. Ok, allons au procès. Le juge entend. Et qu'est-ce qu'il dit, le juge? Est-ce que j'ai fait un tort au premier gars? Est-ce que le juge trouve que j'ai fait tort à lui? Non. C'est ce qui est à moi. J'ai le droit de demander qu'on me rende ce qui est le mien. Ou bien j'ai le droit d'encaisser la perte. Je suis souverain avec mes biens. Et donc Jésus est en train de tressaillir de joie parce que Dieu est souverain, propriétaire de sa grâce. Vous ne pouvez pas l'obliger de gracier. Il peut demander la justice et il est dans ses droits vis-à-vis de toi. Et s'il t'a gracié, rappelle-toi qu'il aurait pu faire comme avec le garçon du début de l'été. C'est vraiment une grâce que tu as eue, non pas une due. Il aurait pu, parce qu'il le fait à d'autres, et tu n'es pas meilleur. Jésus tressaille de joie devant un Dieu d'une grâce souveraine. Maintenant, on va arriver au bout de ce truc et voir le problème des disciples. Nous pouvons dire, et j'ai trois manières d'approcher ce problème pour finir, hein, ça va être vite maintenant. Hein, j'ai fait une grande parenthèse parce que je pouvais pas m'empêcher, parce que c'est dans le passage. Faut voir pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de penser? Il faut comprendre. Mais maintenant, nous pouvons dire peut-être d'un autre angle que ces serviteurs, ces disciples, et parfois nous, on base notre identité sur notre statut de serviteur plutôt que notre statut de pécheur. Tu vois, ils sont revenus. Nous sommes les disciples, nous sommes les 70, nous sommes les chasseurs de démons, c'est ça que nous sommes, c'est ça notre identité. Jésus dit non, 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 non. Ce que vous êtes fondamentalement, c'est pas ça. Ça, c'est un accessoire. Ce que vous êtes vraiment, c'est des gens qui ont besoin que vos noms soient écrits au ciel, c'est-à-dire des pécheurs. Je ne vais pas aller plus loin, mais il dit que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Ils sont revenus, nous sommes les chasseurs de démons. Jésus dit, non, vous êtes des petits enfants, pécheurs qui ont été graciés. Soyez ça. Reposez-vous, relaxez-vous, ne soyez pas quelqu'un. Soyez ceux à qui Dieu a fait grâce. Là, c'est un vrai lieu de repos pour ton âme. Ou bien, nous pouvons, et là j'arrive plus au cœur, nous pouvons dire qu'ils ont confondu ou remplacé la fin du royaume, le but du royaume de Dieu dans notre vie, avec le moyen. Avec le moyen. Regardez bien quelque chose dans le passage. Ils reviennent et ils disent, Seigneur, les démons nous sont soumis, quoi ? En ton nom. En ton nom. Et Jésus va leur parler de nom. Il dit, ce dont il faut vous réjouissez, c'est que vos noms sont écrits au ciel. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Eux, ils voulaient utiliser le nom de Jésus, nom du Sauveur et de Salut, simplement comme un moyen pour accomplir quelque chose. Dans ton nom, par ton nom, je prends ça comme un instrument, un moyen, moi je fais ça. Et Jésus dit, non, non, non. Non, c'est pas ça. Vous confondez le moyen avec le but final. Le but final, c'est que vos noms, c'est que vous-même, vous soyez acceptés et aimés. C'est ça l'état, c'est là que vous voulez arriver. C'est pas arriver à faire quelque chose avec mon nom, mais en mon nom, avoir votre nom mis dans le registre de la famille de Dieu. C'est une affaire d'amour, n'est-ce pas? Lorsque ton nom est écrit, ça veut dire que toi-même, tu vois, lorsque quelqu'un se rappelle pas de mon nom, c'est... Lydie, tu as appelé tout à l'heure, et moi, je ne sais pas si j'étais à moitié endormie, et là, elle a dit que c'est Lydie Nicolas, c'est la fille de Charles, et moi, j'ai pas fait tilt tout de suite, j'espère que ça t'a fait pas fait mal. Mais tu vois, quand quelqu'un se rappelle pas de ton nom, enfin, c'était pas ça exactement le problème, mais, tu vois, est-ce que cette personne s'intéresse à moi? Mais Jésus dit, vous, non, je te connais, je t'aime. J'ai écrit ça, en quelque sorte, avec mon sang, en mourant pour toi. C'est un grand problème, confondre le moyen avec la fin. C.S. Lewis a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Divorce. Et dans ce livre, c'est une allégorie, il y a des gens qui sont dans le purgatoire, j'espère qu'ils ne croient pas vraiment au purgatoire, mais bon... qui sont au purgatoire et qui sont amenés en bus au ciel pour avoir une dernière chance pour se convertir. C'est de la mauvaise théologie. Mais je crois qu'ils utilisent ça juste pour faire l'histoire. Et quand ils arrivent, ils sont des fantômes. C'est-à-dire, ils sont des êtres légers et même quand ils marchent sur la pelouse du paradis, ça leur fait mal parce que tout est tellement solide au paradis par rapport à eux. Qui sont des fantômes portables. Mais en tout cas, quand ils arrivent, chacun est accueilli par une personne humaine qu'ils ont connue dans leur vie sur terre. Et une personne qui a été sauvée. Et c'est cette personne qui essaie de les convaincre de rester au paradis et d'être sauvés, quoi. Mais il faut qu'ils se repentent de leur péché. Et donc, il arrive une discussion entre cette personne sauvée et cette personne pas sauvée au sujet de leur vie. Et on voit à quel point chaque personne veut garder leur péché favori. Donc, il y a à un moment donné un peintre, un fameux peintre humain qui arrive au ciel. Il est rencontré par un autre peintre qui était devenu chrétien sur terre. Et donc, lorsqu'il voit le gars, il veut bien rester au Paris, hein, il dit, mais quand est-ce que je peux commencer à peindre? Et la personne sauvée lui dit, mais si tu parles comme ça, si tu penses comme ça, tu vas jamais rester, tu vas jamais rien voir. C'est pas juste pour peindre ici. C'est le paradis. Et il dit, mais est-ce que tu te rappelles pas que, au début, quand tu étais peintre, il parle aux non-chrétiens, c'est la lumière qui t'intéressait. La peinture était seulement un moyen pour pouvoir parler de la lumière que tu voyais dans la nature. Et le type, il dit, ah oui, mais ça c'était au début, on dépasse ça après. Et on arrive à un endroit où la peinture est une fin en soi. Et le monsieur qui est sauvé, il dit, ah oui, j'ai dû être guéri ça, moi-même de ça. Oui, les couleurs et les brosses et les tableaux et tout ça, il le faut là en bas, mais c'est dangereux tout ça. Parce que après, ces moyens deviennent la fin. Et oui, on ne voit plus la lumière pour ce qu'elle est. La lumière devient un moyen pour que moi je puisse faire un tableau. Oui. Et il dit que on peut faire ça de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à être apologètes, c'est-à-dire leur travail c'était de prouver aux gens que Dieu existe, l'existence de Dieu. Mais quelque part, au fil de leur carrière, ils étaient tellement obsédés par leurs arguments pour prouver l'existence de Dieu qu'ils n'avaient plus de temps pour Dieu. Le moyen est devenu la fin, le but final. Et il y a des prédicateurs qui commencent en parlant de Jésus parce que c'est Jésus qui les émerveille. Et ils veulent que tout le monde connaisse Jésus. Mais quelque part, au fil du temps, ils sont devenus bien connus comme prédicateurs. Et les gens les ont complimentés que tu prêches bien. Et maintenant, Jésus n'est qu'un moyen, un tremplin pour prêcher des bons sermons. Au début, il parlait de Dieu pour Dieu. Maintenant, il s'intéresse plus à Dieu, il s'intéresse simplement à ce qu'ils peuvent dire au sujet de Dieu. C'est leur parole au sujet de Dieu qui les intéresse, et non plus Dieu. Les 70 sont revenus, « Oh Seigneur, les démons nous sont soumis !» Et Jésus doit dire, « Ça c'est rien. Vous avez oublié. Le but de ma venue, le royaume, c'est que vous soyez accueillis, que vous soyez ramenés à Dieu, que vous soyez aimés, que vos noms soient reconnus et écrits, que vous soyez quelqu'un dans la famille de Dieu. Ah oui. Ah, Seigneur. Excusez-nous, chasser un démon, c'est rien. Et vous aussi, vous avez chassé quelques démons? Peut-être pas littéralement. Mais combien nous aussi nous avons besoin de nous rappeler le but et l'essence du royaume de Dieu. Et ne pas nous perdre dans les moyens que Dieu nous donne pour vivre ce royaume. Le Seigneur est vraiment étonnant, n'est-ce pas? Là où nous pensons que nous sommes le mieux, très bien, nous apprenons que nous avons les choses exactement à l'envers. Mais heureusement, le Seigneur est tellement sage, tellement bon envers nous, et il nous apprend. Et je vous laisse avec cette exhortation. Oh, que le Seigneur nous aide à nous défaire de notre justice de soi, qui nous pousse à bâtir notre vie sur ce que nous faisons, que nous puissions laisser ça de côté. Oui, chassons les démons, pour la gloire de Dieu, mais que nous puissions bâtir notre identité, notre vraie joie, sur ce que Christ a fait pour nous. Et le fait que nos noms sont écrits par lui au ciel. Nous allons chanter et prier, et je vais vous demander si vous avez un chant à proposer pour terminer le culte, et ensuite on va avoir un moment de prière.
Rien n'est comparable, je sais plus quel.
Très bien. Oui, ça c'est une très bonne chose. Ok. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Voir adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Oui. Trop? Ok. Céleste merveille, divine splendeur, tendrement tu veilles à notre bonheur. Grâce sans pareille, tu remplis mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et quand je contemple toute sa splendeur, amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur pour qu'il soit ton temple à jamais, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Source féconde de toute douceur, tu ne vas au monde que pour le pécheur. Montée sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Je vous invite à prier. Sentez-vous libre de prier.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Et merci pour cet appel. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir encore une fois instruit dans la sagesse de l'Évangile. Merci de nous avoir rappelé le but de la marche que nous avons avec toi. Pourquoi tu nous as appelé, pourquoi tu es venu nous sauver. Donc, merci de nous rappeler à toujours rechercher cette sagesse, à toujours vivre dans cette humilité, Père. C'est souvent facile que l'orgueil de la vie prends le pas et que l'orgueil de la vie, Seigneur Dieu, nous saisit et que nous soyons tentés, Seigneur Dieu, par ces choses.
Oui.
Mais merci de toujours nous rappeler, Père, ces vérités-là et que nous puissions demeurer fermes dedans, que nous puissions construire une foi inébranlable par la présence de ton esprit en nous, Seigneur Dieu, que nous puissions combattre le bon combat et ne pas nous laisser égarer par une quelconque justice de soi ou par nos réalisations. Encore merci pour ta parole que tu nous as communiquée ce matin. Et nous te remercions aussi de visiter nos frères et nos soeurs qui sont un peu partout à travers le monde, qui sont réunis soit pour t'adorer, pour écouter ta parole. Que comme tu as eu soin de nous ce matin, comme tu nous as pu nous parler, nourrir notre âme par ta parole, je te demande aussi, Seigneur Dieu, de les visiter, de les bénir et de les nourrir. C'est la prière que nous t'adressons et nous te remercions déjà parce que nous savons que tu exauces notre prière parce que nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, celui que tu as envoyé donner sa vie pour notre salut. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, notre Dieu, tu es tout pour nous et rien ne compte en dehors de toi. Mais c'est vrai que quelquefois nous nous égarons dans notre folie et notre plaisir se trouve en nous-mêmes et non plus en toi. Apprends-nous à distinguer ces deux choses qui sont à l'opposé. Apprends-nous à nous débarrasser du plaisir que nous prenons en nous-mêmes et que tout notre plaisir soit en toi. Seigneur, donne-nous la lucidité de foi et de discernement pour faire le bon choix de toujours te mettre au centre de notre vie, au centre de notre pensée, au centre de notre cœur, et que tout le reste soit éliminé comme des scories et des choses indésirables. Apprends-nous cette sagesse que nous avons, Seigneur, dont il a été question ce matin, et donne-nous vraiment la force de ne pas tomber dans l'illusion que nous avons constamment tendance à nous faire sur nous-mêmes. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce vraiment à 100% nous n'attendons rien de bon de nous-mêmes, mais tout de toi. Merci pour cette leçon, Seigneur. Amen.
Oui.
Seigneur, c'est vrai que tu es la source de notre joie. Et c'est vrai aussi que nous sommes tout le temps en train de chercher cette joie dans autre chose. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier ta parole ce matin. Aide-nous à l'appliquer, à vraiment regarder ton visage, à te chercher. Donne-nous cette force, Seigneur. Attire nos cœurs. Sans que tu attires nos cœurs, nous sommes vraiment perdus. Merci encore pour la parole qui nous nourrit, qui nous donne plus soif. Et Seigneur, bénis cette église. Aide-nous à trouver un local que ta parole puisse être repartie partout dans ces endroits où les gens n'ont pas encore entendu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Oh oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous admirons comment tu es, comment tu as fait avec tes disciples. Nous sommes des petits enfants devant toi. Tu nous reprends avec tant de grâce et de tendresse. Tu t'occupes de nos cœurs. Tu t'occupes de nos joies, la source de notre joie, et tu veux pas nous laisser nous égarer là, à ce point essentiel de ton bénissant. Et nous nous réjouissons, ô Père, nous nous réjouissons que tu as écrit nos noms au ciel, par ta grâce, par ta prédestination, par ton élection souveraine en Christ, accomplissant cette œuvre par lui à la croix. C'est là tout notre bien, tout notre espoir. Comment tu nous as aimés. Nous prions, Seigneur, que par nous, beaucoup puissent entendre parler de ce Dieu qui les appelle à entrer dans ce royaume d'amour. Nous nous remettons à toi pour cette journée. Bénis-nous, Seigneur. Pour chacun là où son besoin particulier se trouve, peut-être caché, peut-être des soucis, des angoisses, des confusions. Seigneur, pour chacun ici, nous demandons que tu sois notre sauveur, notre rocher, notre sagesse, pour ta gloire. Amen.
Excusez-moi d'avoir été long ce matin. Okay.